Les passions de Camille avec Camille Chai.
Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici Camille Chai. Aujourd'hui, je reçois Anne D'Amico, une citoyenne active et engagée surtout au niveau de l'accessibilité et de l'inclusion universelle. Mais vous allez voir, c'est une femme déterminée et qui a aussi beaucoup de charisme. Et je reçois Kevin Lamy, qui est coordonnateur à la promotion pour l'Association des amputés de guerre. Et vous verrez, il a aussi plusieurs passions. Alors, c'est un homme qui ne s'ennuie pas et qui sait, peut-être que ça pourra vous donner des idées. Et c'est tout de suite à les passions de Camille. Alors, je reçois ma première invitée qui a 63 ans. Elle habite à Verdun, donc à Montréal. Et c'est une citoyenne active et engagée qui sensibilise, qui revendique et qui passe à l'action pour l'accessibilité et l'inclusion universelle là où elle œuvre. Et là, on va pouvoir plus débattre sur ce sujet où on apprend davantage. Bienvenue, Anne D'Amico.
Bonjour, Camille.
Comment tu vas?
Merci. Ah, je vais bien, merci. Alors, et toi, ça va?
Oui, très bien, merci. Écoute, on a des sujets chauds aujourd'hui hein, à discuter ensemble.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux
commencer? L'heure est au rouge.
Et voilà, l'heure est au rouge, oui. Ben, j'aimerais bien que tu commences par nous raconter ton histoire et que tu nous parles de ton handicap.
Parfait. Écoute, moi, je suis née en 1957 et... Pour faire un parallèle avec la situation du COVID, je suis née en fait entre deux vagues d'un virus qu'on appelle le poliovirus. Je suis née immédiatement après la dernière, la plus grave épidémie qui a été causée depuis la grippe espagnole au Canada.
Quand même.
Et si on peut dire aussi la dernière épidémie importante. Qui a eu lieu en 59. Moi, je suis née en 57. Alors, dernièrement, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que j'écoute, comme tout le monde, un peu les nouvelles. Et je peux faire un parallèle là avec... tu sais, moi, la pandémie m'affecte particulièrement comme beaucoup de personnes vulnérables de notre société. Et ce soir, en vous racontant mon histoire, je vais faire peut-être des petits parallèles avec ce qu'on vit aujourd'hui.
Oui, parce que ça te donne un peu une impression de, ben, pas de déjà vu, mais de déjà vécu aussi.
Tout à fait. Même si j'étais à ce moment-là un bébé, j'avais 9 mois, il reste que les impacts sur l'environnement familial des proches aidants, finalement, d'un enfant avec un handicap ou d'une personne hospitalisée, parce que j'ai été hospitalisée longtemps à cette période-là. Tu sais, au niveau des pandémies, c'est très semblable, là, le fonctionnement. Là. Il y a eu, là, dans ces années-là, les gens avaient peur. Comme on voit qu'il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui y croyaient pas, il y a des gens qui se croyaient à l'abri. C'est la même chose. Oui. C'est l'histoire qui se répète, finalement. Oui. Alors moi, à l'automne de 58, ma mère avait accepté de garder un petit voisin qui était ami de mon frère. Alors, ce jour-là, l'enfant, il faisait de la fièvre. Alors, moi, c'est sans doute ce jour-là que j'ai contracté le virus de la polio. Et il faut dire que le vaccin existait. Alors, comme aujourd'hui, que le vaccin, maintenant, il est disponible, pourtant, je suis née et j'ai contracté quand même la polio. Je fais le lien avec le calendrier de vaccination qu'on vit aujourd'hui. Ben, à l'époque... on trouvait que, bon, qu'on avait évalué que c'était les enfants qui fréquentaient la deuxième, troisième année du primaire qui étaient, si vous voulez, le groupe prioritaire. Alors moi, mes parents ont su que j'avais la polio le troisième jour après qu'on ait gardé le petit voisin qui s'appelait Daniel.
Parce que tu avais déjà des symptômes,
ah oui. À ma mère pour dire que l'enfant était mort. Alors, la maladie de la poliomyélite, finalement, elle donne des séquelles quand on en survit. C'est au niveau pulmonaire et souvent à cause des paralysies. Alors, moi, c'est les séquelles que j'ai. Donc, avec le coronavirus, je suis d'autant plus inquiète. Je fais partie des groupes à risque,
oui.
Mais pas prioritaire dans le calendrier de vaccination. Vous me suivez?
Mais oui, c'est ce qui... en fait, tu en ris, Anne, mais c'est ce qui... pose aussi problème en même temps.
Et tout à fait. Hein. Alors, je redis une deuxième fois que oui. le vaccin existe et que je suis dans les groupes à risque et parce oui. que faut dire que le vaccin de la poliomyélite, à l'époque, on disait les gens que les enfants, on appelait ça même la paralysie infantile. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que les enfants étaient à risque.
Oui.
Donc, je faisais partie des enfants et Daniel aussi. Daniel avait 3 ans. Mais nous n'étions pas parmi les premiers à être vaccinés. Apparemment, moi, ça commençait dans l'année, dans l'hiver qui suivait, puis on était à l'automne lorsque j'ai eu la polio. Alors, moi, je peux dire que j'ai eu une enfance tout à fait normale. Mes parents ne m'ont pas surprotégée, ce qui a permis justement mon développement, je crois, mon épanouissement, parce que je vivais dans un milieu sécuritaire où on voyait à protéger mes intérêts, que ce soit au niveau des soins à recevoir ou finalement d'être en sécurité pour tu sais, puis d'avoir les besoins de base, là, oui. les besoins vitaux de sécurité, d'amour, d'estime de soi et tout ça, c'était comblé. Et puis malgré les embûches que je pouvais vivre à cause de mon handicap et des bien sûr de l'environnement. Hein,
c'était quoi comme embûche, par exemple? Parce que là, tu nous parles de ton enfance, c'était en relation avec les autres, j'imagine?
Ben, c'est pas tellement... c'est plus au niveau des infrastructures et des systèmes que je dirais gouvernementaux, le système gouvernemental. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on invoque le racisme systémique ou la discrimination systémique. À l'époque, c'est, nous, les personnes handicapées ou les personnes avec des difformités, c'est ce qu'on vivait, en fait. On devait être placé dans des... puis aller à l'école ou dans des camps spécialisés. Mmh. On n'était pas du tout intégré avec les autres enfants. On ne parlait pas d'inclusion.
Non. Non.
Pas loin avant moi, on parlait davantage de charité et de pitié.
Et voilà.
Et la société les excluait ou les cachait.
Oui, c'est... Oui,
les
je pense
personnes
que...
handicapées, dans l'histoire, on commence à peine à en tenir compte.
Tout à fait. Je ne sais pas si... En fait, je peux me permettre de dire qu'on est au début de cette nouvelle ère, hein, si on peut l'appeler comme ça, de parler d'inclusion. Je pense qu'il y avait peut-être certaines idées ou envies bien avant, mais le chemin, on a beaucoup à faire encore. Il y a beaucoup à faire devant nous. Mais quand tu parles, en fait, de la polio, des besoins dont tu avais besoin, parce que là, Anne, tu es en fauteuil roulant?
Oui, actuellement, oui. Mais je ne l'ai pas toujours été.
Ah,
moi,
okay.
Disons que la poliomyélite, je suis restée avec des séquelles paralytiques, mais je fonctionnais avec des orthèses fémorales longues. Et l'hiver, pour éviter de chuter, pour m'aider à traverser les bancs de neige, les hivers, quand j'étais jeune, en 60-70, c'est pas les hivers d'aujourd'hui.
Comme aujourd'hui.
Je prenais des béquilles. Si je devais sortir seule, si je sortais avec des membres de ma famille ou avec des amis, souvent, il y en a une qui me tendait le bras, puis ça me suffisait. Là, mais si je devais sortir seule, c'est juste depuis 10 ans que j'utilise un fauteuil roulant. Alors moi, quand j'étais jeune, c'était de se battre pour aller à l'école normale, pour aller à l'école de mon quartier, pour que je puisse jouer avec les mêmes amis la fin de semaine.
Est-ce que c'était la direction...
À l'école.
Ah oui, mais donc c'était la direction même des écoles des autres enfants valides qui refusait un peu ton institution?
Oui, parce que à l'époque, il y avait des écoles spécialisées et c'est là qu'on nous dirigeait. Mais moi, je ne voulais pas y aller parce que j'avais eu la chance d'aller au camp qu'on appelle aujourd'hui le camp Papillon l'été de mes... juste avant ma rentrée scolaire. Et quand je suis revenue de là, malgré que c'est un camp formidable, puis bravo, ça en prend des lieux comme ça. Mais moi, je ne m'identifiais pas comme eux.
Mm-hmm.
Et ça faisait partie aussi de la mentalité entre handicapés. Il y avait comme une hiérarchisation de l'handicap. Mm. Et J'ai trouvé ça spécial quand j'ai écouté Crib Camp sur Netflix, parce qu'ils en font mention. Et moi, j'étais atteinte de poliomyélite, puis la polio, là, on disait les polios, là, c'était le top du top. Bon. Si tu avais à choisir ton handicap, c'est ce que tu choisissais.
Ah oui, carrément.
Alors, imaginez comment on part de loin.
Oui.
Au niveau de, tu sais, puis alors c'est l'école, c'est d'avoir des soins appropriés là pour me réhabiliter, parce que comme j'ai été paralysée, ben j'ai eu besoin de réhabilitation pour réapprendre à marcher, etc. Les parents que j'ai eus se sont battus. Après ça, ça a été pour... Il n'y avait pas d'assurance maladie.
Mm.
Moi, je me souviens d'avoir vu ma mère écrire pour quémander de l'argent, parce qu'il y avait des factures de 6 000 $ pour une opération, alors que mon père, il en gagnait 75. Ça fait qu'on est loin. Il n'y avait non seulement pas l'assurance maladie, mais il n'y avait pas la Charte des droits et libertés. Il n'y avait pas la société, oui, elle a évolué, mais quand je regarde la Charte des droits et libertés aujourd'hui, OK, et que je sais que les droits ne sont pas bafoués seulement pour les personnes handicapées, OK, je comprends qu'il y a encore... Cette charte-là, elle a une vision d'une société inclusive.
Heureusement.
Oui. Mais l'application de ça dans le quotidien ne se fera pas tant qu'il n'y aura pas un changement de mentalité par rapport à ceux qui sont les plus vulnérables, à ceux qui sont les plus discriminés.
Complètement.
Mais c'est ce que je constate. Puis là, avec la pandémie, ben je pourrais aller plus loin, parce que tu sais, la charte, ça protège. Tu sais, on est égaux en droit, au sens de la charte, et chaque humain a droit à sa protection et à son épanouissement. Alors, au niveau de la pandémie, la protection, la sécurité, le droit à la vie, le droit au secours, il est même remis en question ces jours-ci.
Complètement. Et tu as parlé de combat tout à l'heure, ce qui prouve un peu à quel point, quand on a un handicap, peu importe le handicap qu'on a, quelque part, on doit mener des combats presque à tous les jours.
Presque à tous les jours, effectivement. Alors, on peut le voir comme un combat. Je l'ai longtemps vécu comme un combat et ça m'apportait à être un peu frondeuse, puis même, je vous dirais, peut-être arrogante et peut-être désagréable.
Ah oui.
Aujourd'hui, je le vois avec amour. Je vois que on n'est pas les seuls, que notre société est très malade, en fait.
Mm-hmm.
Que notre société, elle a des gros problèmes et que tant qu'on s'unira pas, qu'on travaillera pas de concert, à répondre aux besoins fondamentaux de tous les êtres humains, ben on n'aura pas une société inclusive, tu sais. Puis faut penser aux bâtiments, tu sais, en particulier pour ceux qui ont des handicaps physiques comme
oui.
moi.
Oui.
Je veux dire, le handicap, c'est la société, c'est pas moi. Le handicap ne me définit pas.
C'est très beau, Anne, et je propose, écoute, on va prendre un petit remontant, si vous le voulez bien. Je propose qu'on passe à la pause musicale et on continue de parler de ces beaux sujets avec toi, Anne.
D'accord.
C'est fait de rien, c'est la chanson du quotidien, c'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un oiseau qui monte au ciel, c'est un orage, un arc-en-ciel, des yeux d'enfant qui vous désarment. La vie, c'est la montée de long chemin, à faire à deux mains dans la main, jusqu'au grand soir où tout s'enflamme. La vie, c'est l'inconnu du lendemain, c'est le passé qui vous revient comme un regret de vieille.
Le reconnu, c'était Ginette Renaud avec sa chanson, sa magnifique chanson « La vie ». Et Anne D'Amico, c'est une chanson que tu as particulièrement choisie. Pourquoi?
Ben, à cause des combats qu'on mène.
Oui, on l'aura bien compris.
Et l'espoir qu'il y a dans cette chanson-là, tu sais, la liberté de pouvoir vivre notre vie comme on l'entend. C'est pas le cas de tous. On le voit avec la pandémie, là, c'est, ça touche tout le monde, mais les personnes handicapées vivent ça sans pandémie.
Voilà, exactement. C'est une réalité. Et c'est bien qu'on en parle justement parce que toi, j'ai envie de dire, tu es au cœur de l'action. Parce que quand tu dis que tu t'engages et tu veux sensibiliser, revendiquer, mais au niveau de l'accessibilité et de l'inclusion universelle, et tu le mentionnes bien, là où tu œuvres, pourquoi c'est important pour toi de le dire de cette façon?
Bien, c'est... disons que moi, comme je ne me suis pas identifiée comme une personne handicapée, jusqu'à 35 ans environ, jusqu'à la mi-trentaine, où là, j'ai été diagnostiquée avec le syndrome post-polio, qui affaiblit progressivement les muscles, entraîne une fatigue pratiquement permanente,
chronique, oui.
En tout cas intense, et puis des douleurs musculaires, articulaires, puis moi j'ai des crampes aussi. Alors c'est là que j'ai été contrainte à revoir l'équilibre, si vous voulez, de ma vie personnelle. Moi j'avais deux enfants en bas âge, j'avais une vie professionnelle active, j'avais un conjoint, j'avais une maison, j'avais un chalet, les enfants avaient des activités, j'avais mes activités, j'avais une vie sociale, et là je n'y arrivais plus. Physiquement.
Oui.
J'étais frappée par le syndrome post-polio. J'étais à la mi-trentaine. Je ne savais pas ce qui se passait parce que ça a pris du temps avant que... Il y a eu un article qui est apparu dans la presse puis j'ai dit, c'est ça, c'est ce que j'ai. On en parlait très peu. Alors, j'ai porté à la société, à la fermeture de la société parce que j'ai eu des problèmes au travail, pour commencer. Malgré que l'Office des personnes handicapées avait mis un plan d'adaptation, je me rappelle pas du nom, mais c'était un programme qui avait été mis sur pied pour les employeurs de 50 employés et plus. Et donc, je m'étais prévalue de ça. Puis malgré tout ça, j'ai eu des problèmes avec à l'emploi.
Et parce que c'était enseignante au collégial?
Oui, Exactement. Alors, tu sais, on parle d'éducation et à cause des conventions collectives, il y avait des contraintes. Tu peux pas être malade à temps partiel. Au niveau des conventions collectives, tu es malade ou tu n'es pas malade.
Mm-hmm.
Alors que moi, j'étais malade temporairement parce qu'après avoir arrêté de travailler puis revisiter ma vie, puis refaire... j'ai eu de bonnes années encore. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis en fauteuil roulant, mais j'ai encore des belles journées. J'ai une vie active encore. Donc, on peut faire ça avec toutes les personnes qui ont une différence. On peut leur donner la possibilité. Moi, je n'ai pas eu le soutien à ce moment-là de la société. Et on était au balbutiement de ces programmes-là. Et bien sûr, dans la tête des dirigeants qui prennent les décisions, toute la pensée dont je vous parlais tantôt, qu'on avait été des gens exclus, de la pitié, de la charité. Après, dans les années 60, à cause des deux grandes guerres, ben là, on a été des objets de science.
Oui, des cobayes, on peut dire.
Oui, oui, c'est ça, on était des objets de science. Ce n'est qu'avec la Charte des droits et libertés qu'on a été reconnus comme égaux en droit puis des humains. Et puis, qu'on avait le droit aux mêmes privilèges que les autres, la protection et notre épanouissement. Alors, moi, j'étais au balbutiement de ça. J'avais 18 ans lorsque la charte... Mais ça me donnait espoir. OK? Parce que déjà, j'avais dû me battre pour que mes orthèses soient payés par la RAMQ.
Mm-hmm.
Parce que j'avais fait dessiner une orthèse. Parce que je voulais porter deux souliers pareils. Je me disais, je m'en vais sur le marché du travail bientôt. Qui va engager quelqu'un? Parce qu'on était à l'époque, si vous voulez, de la suprématie de la beauté. On l'est encore.
Oui.
Alors, il faut donner les moyens aux personnes d'avoir de l'estime de soi quand tu as un handicap. Alors, tu sais, il faut que tu puisses, en tout cas, développer tes talents, quels qu'ils soient. Alors, moi, mes talents étaient peut-être plus au niveau de la communication écrite et verbale. Et je me dirigeais pour aller travailler dans des bureaux, puis éventuellement, je suis devenue enseignante. À l'époque, il y avait un code vestimentaire pour quand tu étais adjointe administrative. OK, alors moi, je me disais, je pourrais pas, je portais des bottines brunes. Alors, je m'étais battue déjà. C'est très long, c'est très, très long avant de changer parce que les mentalités doivent changer même s'il y a des lois.
Mm-hmm.
Et pour changer ces mentalités-là, ben souvent, il faut se mettre à la place de l'autre. Hein. C'est pour ça que quand je dis dans mon quotidien, moi, j'invite les gens à se mettre à ma place.
Mais toi aussi...
De façon gentille.
Oui, parce que tu nous as dit tout à l'heure que, bon, tu l'as pas toujours été selon les situations. D'ailleurs, j'aimerais que tu me donnes des idées tout de suite après. Mais avant, je veux quand même mentionner le fait que actuellement, tu sièges sur le comité citoyen de l'accessibilité universelle de l'arrondissement de Verdun, là où tu habites. J'aimerais que tu me parles de ta définition à toi de l'accessibilité universelle. Qu'est-ce que ça t'inspire ou qu'est-ce qui est important pour toi dans cette notion-là?
Ben, au niveau de l'accessibilité universelle, c'est d'éliminer toutes les barrières architecturales. C'est d'avoir au centre de nos décisions, à cœur, l'inclusion des personnes, quels que soient les moyens qu'ils utilisent pour pallier leur handicap. Exemple, les chiens guides, cet été, il y avait des belles tables de pique-nique, notre rue était devenue piétonnière, et malgré que je siège sur le comité d'accessibilité universelle, il n'y avait aucune table de pique-nique. Vous savez, adaptée pour que moi, je puisse m'asseoir quand j'allais... puis que je voulais prendre un breuvage sur les terrasses, c'est de s'assurer que quand on crée des événements, que ce soit des événements culturels, des événements sociaux, des rassemblements politiques, etc., que le lieu soit accessible et qu'il soit bien identifié pour permettre aux gens de participer. Moi, j'ai déjà vu dans mon quartier des candidats faire des rencontres publiques dans des lieux non accessibles.
Mm.
Pensez-vous que j'ai voté pour eux?
Mais non, bien sûr que non.
Pensez-vous que j'ai demandé à leur... Oui. Et là, on fondait plus. Mais je vous parle pas de ça dans les années 30, là. Non. Je vous parle de ça dans les années pratiquement 20-20.
Oh là là. Ouais.
Fait que c'est ça, c'est de mettre la capacité de tous au centre de nos décisions. Mm. Ça coûte pas cher faire ça.
Mais non, puis c'est des exemples, hein, quand on parle d'une boutique, et comme tu le dis, de le mentionner dans la vitrine, si quelqu'un a besoin d'aide pour entrer ou s'informer par rapport à l'accessibilité, c'est des choses qui peuvent être faites à moindre coût.
Il y a des rampes amovibles, il y a plein d'outils qui coûtent vraiment pas cher, qui facilitent la vie. Mmh. En tout cas, moi, je pense que autant pour la personne elle-même, que pour la communauté.
Oui.
Quand on favorise la diversité, quand on est inclusif, c'est enrichissant.
Complètement.
Moi, le fait d'être sur le comité d'accessibilité universelle, parce que moi, je ne suis pas une experte. Moi, je suis une citoyenne en situation de handicap, si vous voulez, mais avant tout, je suis une citoyenne engagée. Mais à cause de ma condition, j'ai toujours pris le temps de sensibiliser les gens. Je me souviens quand mes enfants étaient à l'école, j'étais allée voir la directrice, j'avais dit, il n'y a pas de stationnement pour handicapés à proximité. On m'avait répondu, bien écoutez, notre école n'est pas accessible, on les envoie toutes à telle école du quartier. Oui, mais il y a des parents qui viennent aux rencontres. Alors, voyez-vous, c'est parce que ce n'est pas pris en compte lorsqu'il y a des planifications d'événements, que ce soit au sein des institutions publiques ou privées. Tu sais, les commerçants qui sont accessibles, je les félicite.
Ah oui, ben complètement. Puis c'est un beau message que tu passes, Anne. On a déjà plus de temps, mais je tiens à te remercier pour justement la sensibilisation que tu fais, mais nous avoir aussi partagé ta force et ton amour.
Merci, Camille. C'est un plaisir.
Merci à toi, Anne.
Au revoir.
Et restez avec nous parce que après la pause, je reçois mon ami Kevin Lamy.
Vous écoutez Les Passions de Camille avec Camille Chaille.
Et oui, et je suis avec vous encore pour la prochaine demi-heure et j'ai le plaisir de recevoir mon deuxième invité. Il a 31 ans, il est originaire de Cowansville et il habite en ce moment à Longueuil. Il est aussi coordonnateur à la promotion pour l'Association des amputés de guerre, que je connais très bien, Kevin Lamy. Enchanté, bonjour, bienvenue.
Bonjour Camille, ça va bien?
Mais oui, très bien. Écoute, je le mentionne hein, aux auditeurs, mais Kevin, on est des amis de très longue date. On se connaît depuis, j'ai envie de dire, depuis presque toujours par l'entremise de l'Association des amputés de guerre.
Oui, c'est vrai. On a grandi ensemble au sein de l'association. Donc, c'est comme une deuxième famille pour nous. Donc, on se connaît quand même depuis longtemps.
Exact. Mais je suis contente de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai envie que les gens te connaissent. Je veux dire, bon, on va parler évidemment de l'Association des amputés de guerre qui, comme tu l'as très bien dit, est franchement notre deuxième famille. Mais j'ai envie de connaître d'autres choses qu'on ne connaît pas nécessairement de toi. Mais pour commencer, j'aimerais quand même que tu nous parles de toi, donc de ton histoire et de ton handicap.
Oui, donc premièrement, moi je suis en fauteuil roulant. J'ai aussi des petits bras, j'ai des malformations au bras. Mm-hmm. Techniquement, ça s'appelle le syndrome de Thar, c'est T-A-R. En gros, là, c'est que j'ai l'absence de mes radius de mes bras. Donc, j'ai mes mains qui sont à mes coudes. Mm. Et puis, donc ça, c'est mes petits bras, mais aussi, je suis en fauteuil roulant parce que dans mes genoux, je n'ai pas de rotule. Et j'ai de la misère aussi avec mes hanches. Donc, ça fait que mes jambes sont pas tout à fait droites, ils sont un peu croches. Donc, pourquoi que ma position debout, je suis quand même capable de marcher un petit peu, mais elle est penchée par l'avant et mes jambes ne peuvent pas m'aider beaucoup là, à marcher. Donc, là, pourquoi que je suis en fauteuil roulant?
Et là, c'est un fauteuil motorisé même, hein?
Et voilà, donc c'est un fauteuil motorisé que j'utilise à tous les jours.
Et le syndrome de Tarr, donc tu dis que tu l'as depuis ta naissance.
Je suis née comme ça.
Est-ce que tes parents savaient que tu naîtrais avec ce syndrome?
Non, pas du tout. Quand ma mère l'a accouché, c'était une surprise pour elle de voir que son enfant avait des petits bras.
Mm-hmm.
Et ils ne l'ont pas vu à l'échographie. Peut-être dans le temps, les échographies étaient peut-être moins avancées qu'aujourd'hui, mais quand même, ils ne les ont pas vus parce que c'est la chose de radius. Donc, c'est l'avant-bras. Peut-être qu'ils n'ont pas mesuré comme il faut. Ou, en tout cas, le pourquoi de la chose, nous, on ne sait pas.
On
ne
saura jamais, peut-être.
Donc, et voilà. Donc, voilà. Donc, c'est une petite surprise de la part de ma part pour mes parents.
Oui. Mais puis, est-ce que ton père et ta mère, ils ont dû, sans dire faire des recherches, mais ils ont dû se renseigner ou est-ce qu'ils en ont appris un peu sur ça? Est-ce que c'est quelque chose qui était génétique ou qu'il y a déjà eu dans la famille auparavant?
Oui, donc c'est sûr que quand je suis née, tu sais, il y avait beaucoup de rendez-vous à l'hôpital, les nombreuses heures qu'ils ont passées avec les différentes opérations et tout, à savoir pourquoi que c'était comme ça et essayer de faire en sorte que mes bras ou mes jambes, tu sais, étaient mieux. Donc c'est côté génétique. On n'a pas su exactement le pourquoi, mais garder ça simple, mon père et ma mère ont comme le même gène défectueux et comme qu'ils se sont pas comme mélangés comme faux, ça fait qu'il y a des morceaux qui n'ont pas poussé.
Mm-hmm.
Et le voilà le pourquoi que j'ai des petits bras aujourd'hui.
Mais Kevin, t'as un frère?
Oui, j'ai un frère 4 ans plus jeune que moi.
OK. Et lui, est-ce qu'il a des traces aussi de ce syndrome-là?
Non. Dans le fond, mon frère, lui, a tous ses membres, mais par contre, si un jour, lui, déciderait d'avoir des enfants, ben il a une chance sur 4 à avoir un enfant comme moi avec le même syndrome. Tandis que moi, si j'ai des enfants un jour, j'ai une chance sur 2 d'avoir un enfant avec le même syndrome que moi.
Et là, aujourd'hui, tu es célibataire?
Oui.
Tu es à la recherche de ta tendre moitié?
C'est sûr qu'un jour, j'aimerais bien ça de avoir une compagne et une femme, de me marier, quoi, avoir une famille à moi.
Oui.
Et c'est sûr que certains, ben, en temps de COVID, quand on reste à la maison tranquille, à pas sortir, un peu plus compliqué.
Oui, je te l'accorde.
Mais bon, c'est toujours un objectif. Je pense que à chaque étape de la vie qu'on traverse, ben, j'en ai traversé plusieurs et celle-là, c'est la prochaine que je veux traverser.
Mais je te le souhaite de tout cœur, puis j'ai envie de te demander comment ça se passe justement, bon, là, sans parler de la période COVID, comme tu dis, où c'est plus dur de rencontrer des personnes, même dans ton enfance, ton adolescence, par rapport au regard des autres, aux autres enfants, et je veux dire, quand on est jeune, hein, je pense que ça nous est tous arrivé, on tombe amoureux quand on est quand même très jeune. Comment ça se passait un petit peu pour toi, tout ça?
Et c'est sûr, c'est quand même... c'est compliqué quand que... C'est comme t'as tous tes membres déjà en partant. C'est sûr que pour une personne handicapée, c'est un petit peu plus dur aller de l'avant, puis aller de l'avant et prendre le courage à deux mains et d'aller foncer. C'est sûr que c'est pas évident. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que j'ai déjà eu la pensée de ben, tu sais, si jamais. Je pense que je serais capable d'avoir une compagne avec tous ses membres, qui n'est pas nécessairement handicapé, mm-hmm. tout ça, parce que je pense que je le vaux bien. Et là, en tant que amour comme tel, ben, quand on voit l'amour, le véritable amour, ne regarde pas comme juste le physique.
Non.
Donc, c'est important de voir la personne intérieure. Et je pense que c'est important. Donc, pour moi, de mon côté, ben, je veux pas dire que je tomberais peut-être pas en amour avec quelqu'un d'autre handicapé comme moi.
Mm-hmm.
Mais je me dis que je m'arrêterai pas à regarder juste des personnes handicapées parce que j'en vaux pas la peine. Non, mm-hmm. au contraire, je sais que je peux offrir mieux aussi. Fait que voilà, c'est sûr que étape par étape, différentes étapes à franchir, justement, écoute de ce côté-là. Puis ben, c'est de trouver la bonne personne. Parce que c'est pas toujours évident. Mm-hmm. Et voilà.
Ben, je te le souhaite, hein, mon cher.
Oui, merci bien.
Et je suis curieuse aussi de savoir par rapport à ton enfance dans ta famille, donc avec ton frère et tes parents, quel en fait, je pense qu'on a déjà un peu des indices juste dans tout ce que tu viens de nous dire, mais quel type d'éducation est-ce que tu as reçu de tes parents?
Avec mes parents, ils m'ont jamais pris de côté et mis à part des autres. Ils m'ont toujours inclus dans toutes les activités qu'on faisait, que ce soit côté sport, que ce soit à l'école. J'ai toujours été dans des classes régulières, même si j'étais différent comme physiquement, mais mon mental, je l'ai tout. Donc, j'ai pas de problème à l'école, je suis dans les classes régulières. Et ça a fait en sorte que ça a forgé mon caractère que j'ai aujourd'hui, de pas me laisser marcher sur le dos, de foncer dans la vie. Donc, c'était très important d'être capable de faire tout ce que je veux faire, même si c'est peut-être pas de la même façon de le faire, mais au moins j'étais capable de le faire à ma manière. Donc, mes parents, ils m'ont vraiment inculqué la bonne éducation, la bonne façon de raisonner.
Oui.
Ils m'ont toujours dit, ben, débrouille-toi, c'est le système B. Et ça l'a amené aujourd'hui que ben, j'habite tout seul, je conduis ma voiture, j'ai mon travail. Donc tout ça a apporté, mes parents m'ont donné une bonne base au début.
Oui.
Et puis aujourd'hui, ben, j'étais un homme autonome et capable de faire les choses que je veux, quand que je veux et avec qui que je veux.
C'est excellent. Mais tu l'as bien dit, je trouve c'est important et intéressant de parler de l'éducation parce que c'est fou. Quand on vit avec un handicap, on en parlait avec l'invité plus tôt dans l'émission, on a tous nos propres combats à mener, mais c'est incroyable. C'est tout dépend de ce qu'on a en fait dans notre tête, de tout ce qu'on a reçu de nos parents, de ce qu'on a entendu. On développe, en fait, on a cette chance, mais tout le monde a cette capacité de développer une vision de la vie positive malgré tout et de développer une résilience. Et clairement, tu les as tous développés aussi.
Tu as bien raison, c'est de se focusser sur le positif de la chose. C'est sûr que mes parents m'ont beaucoup aidé sur ça, mais on va en parler un petit peu plus tard, mais l'association des anti-guerres aussi met l'accent sur le positif, parce que le programme qu'on faisait partie quand on était jeune, le programme des vainqueurs, ben on a toujours été amenés sur le positif de la chose. C'est pas parce qu'on avait un membre en moins ou qu'on a un handicap qu'on ne peut pas faire les choses, on peut les faire différemment et pousser dans la vie et continuer, surmonter les différents obstacles. Donc voilà, c'est avoir le bon côté, avoir le mental solide pour être capable de foncer dans la vie.
Que c'est beau, Kevin. Puis tu sais quoi, j'ai envie qu'on en reparle davantage. Donc on va passer à la pause musicale tout de suite et on se régale encore ensemble par la suite.
Merci.
La that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
C'était Life is a Highway de Rascal Flatts. Kevin, l'ami, c'est ton choix musical. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Pourquoi? Bien, sais-tu, Camille, moi, j'aime beaucoup les films de Disney. Et un de mes films préférés, c'est Cars, les bagnoles.
Oui.
Et c'est la chanson thème de ce film-là. Mais aussi, je trouve que c'est une super de belle chanson parce que, tu sais, justement, la vie est une autoroute. Life is a highway. Donc, on doit rouler dessus à 100 000 à l'heure et foncer dans la vie et toujours continuer, même surmonter les obstacles et suivre les différentes courbes que la vie va t'amener et te ramener après ça sur le bon chemin. Donc, je pense que c'est une belle chanson que j'aime beaucoup, là, dans le fond.
Quelle belle image. Et tu sais quoi, je trouve que ça parle bien de toi parce que, d'ailleurs, il y a quelques années, toi et moi, on était allés au salon de l'auto. Donc, c'est pour dire à quel point, les deux, on aime les voitures, mais tu aimes les voitures, Kevin. Parle-nous de ta voiture, tiens.
Oui, rapidement, la voiture. J'ai une camionnette, une Toyota Sienna, qui fait que je peux mettre mon fauteuil roulant à l'intérieur, parce que je ne pouvais pas avoir une petite voiture et conduire comme une Smart. Et puis là, ben, mon fauteuil roulant est aussi gros que la Smart, par exemple.
Oui.
Donc, voilà. Donc, moi, je suis assis dans le siège du conducteur. J'ai un plus petit volant avec une boule au volant. Les boutons, j'ai des boutons de la porte à gauche. J'ai des boutons plus rapprochés à droite pour tout ce qui est chauffage et tout. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça en œuvre.
Mm-hmm.
Et c'est une chance que la technologie existe pour être capable de faire ça, parce que ça aussi, ça a été une grosse étape dans ma vie. La conduite automobile, ça m'a amené une grande autonomie à pouvoir fonctionner comme il faut. Ça m'a permis d'aller aux études, ça m'a permis d'avoir mon travail, donc de sortir avec des amis.
Oui.
Quoi, fait que c'est très important dans une vie, l'autonomie de quelqu'un. Donc, cette voiture m'a permis de pouvoir avoir une vie, on peut se le dire, là, aussi normale qu'on peut avoir.
Oui, complètement. Et comme on parlait des amputés de guerre tout à l'heure, ben, eux aussi permettent à tous les jeunes qui ont un handicap ou qui vivent avec une différence de développer leur autonomie, comme tu le disais tout à l'heure, d'apprendre à découvrir les forces et les capacités qu'ils ont en eux, en ne mettant pas les limitations et les difficultés de côté. Au contraire, est-ce que tu peux me dire un peu tous les services qu'offre l'association?
Donc, l'association Les Antiguerres existe depuis plus de 100 ans maintenant. Ça a commencé avec les anciens combattants de la Première Guerre mondiale qui revenaient au pays avec un membre en moins, malheureusement.
Mm.
Ils n'avaient pas vraiment de ressources pour eux. Donc, ils ont créé l'association. Et au fil en aiguille, ils ont vu que plusieurs années après, ils ont vu que c'était pas seulement que les amputés de la guerre qui avaient besoin d'aide, mais bien les enfants, les personnes amputées aussi. Donc, ils ont créé le programme Les Vainqueurs. C'est un programme pour les enfants amputés. Que ça soit amputé à la naissance, avec né avec un membre en moins,
mm-hmm.
ou bien avec certains accidents aussi. Donc, au fil des ans, on a créé un programme qui s'appelle Jouer prudemment.
Oui.
Ce programme fait en sorte que on essaie de sensibiliser la prudence auprès des enfants, parce qu'un accident est si vite arrivé, malheureusement, et on veut faire en sorte que qu'il y en ait moins. Au fil des ans, ça l'aide, mais c'est pas encore tout à fait encore avec zéro accident à l'année. Donc, on continue notre programme, notre mandat de faire ça. Et on vient en aide justement à l'achat de prothèses récréatives auprès des jeunes qui en auraient besoin. Parce que différents programmes gouvernementaux ne couvrent certaines prothèses, mais il y en a qui ne couvrent pas les prothèses récréatives. Donc, nous, on vient en aide aux enfants qui en auraient besoin. Puis, on sait comment les enfants grandissent vite.
Oui.
Donc, ça doit être changé quand même rapidement.
Oui.
Donc, c'est pas donné, ces prothèses-là.
Non.
Donc, voilà, nous, on vient en aide à ces familles qui en ont besoin.
J'aime toujours faire la blague, Kevin, vous allez me voir venir, mais qu'une prothèse, ça coûte un bras ou une jambe.
Oui,
bon.
C'est vrai.
mais puis, en fait, j'ai envie de faire du pouce là-dessus parce que moi-même, étant jeune et encore aujourd'hui, mais j'ai eu la chance d'avoir des prothèses de natation, donc pour ma prothèse de jambe. Puis comme tu le dis, mais ça change carrément une vie, surtout pour un enfant. On a tous les enfants ont besoin de bouger, de sauter, d'avoir du plaisir comme n'importe qui. Donc moi, je veux dire, je serai toujours reconnaissante envers l'Association des amputés de guerre et ça me fait plaisir. J'en parlerai toute ma vie de cette association-là.
Oui, c'est vrai. Mais vois-tu, on en a bénéficié de ce programme, donc on est les mieux placés pour en parler.
Oui.
Justement, les gens peuvent peut-être se poser la question, ben comment ils font pour ramasser des dons,
mm-hmm.
ramasser des fonds, parce que l'Association des Antiguerres ne reçoit aucun fonds du gouvernement, aucune subvention. Donc, c'est les dons du public qui fait qu'on peut amasser des sous pour justement fournir de l'argent pour ces prothèses récréatives-là pour les familles des vainqueurs.
Oui.
Et ben, ça, c'est notre service des parcs particuliers qu'on donne en retour des dons. Et justement, là, on est en pleine campagne pour les plaques porte-clés. Au Québec, ça va recommencer au mois de février. Donc, on est en préparation de ça. Et puis, justement, les dons de services plaques porte-clés, c'est un don essentiel. Parce que, justement, les gens qui perdent... qui ne connaît pas quelqu'un qui a déjà perdu ses clés?
Oui, on en connaît tous. Si c'est pas nous-mêmes, oui.
Et voilà. Donc, notre petite plaque porte-clés est attachée à votre trousseau. Et puis, ça fait une sécurité de plus pour justement retrouver vos clés si quelqu'un les trouve mm-hmm. par terre. Par exemple, la personne a simplement à les déposer à la boîte aux lettres. On a une entente spéciale avec Post Canada qui nous les retourne. Et puis nous, on va les retourner à leur propriétaire là, dans les plus brefs délais dès qu'on les a reçus. Donc, c'est un service gratuit, mais c'est sûr qu'on aime avoir un don en retour pour mm-hmm. justement aider les enfants amputés avec l'achat de prothèses et tout ça.
Puis j'en profite, hein, je remercie l'association, mais je trouve que c'est important aussi, au nom de tout le monde à l'association et tous les amputés, de remercier justement les donateurs. Il y en a peut-être parmi vous qui êtes en train de nous écouter qui êtes donateurs parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Kevin, mais souvent les gens vont m'aborder dans la rue voyant que je porte une prothèse. Et ils me le disent carrément que je donne des dons depuis très longtemps. Donc, merci à vous qui faites ces dons-là. Ça fait une énorme différence.
Ah, c'est sûr. Et on sait comment ils sont bien utilisés, ces dons-là. Nous, à l'association des amputés, il y a seulement que 10% qui est utilisé à fin administratif. Mais 90% du don recueilli est mm-hmm. utilisé pour les enfants. Et ça, on est fiers de le dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations ou d'organismes qui ont ce barème-là de dons mm-hmm. qu'on utilise. Donc, on est fiers de ça.
Alors, le message est lancé. Si les gens veulent plus d'informations, il y a le site des amputés de guerre, le www.amputedeguerre.ca. Et pour les dernières minutes, Kevin, j'aimerais... je veux absolument que tu me parles de tes passions parce que tu en as plus d'une.
Mes passions, j'aime bien faire du vidéo montage. Disons que je prends des photos ou quelqu'un a pris des photos à un mariage et puis moi je vais faire un montage avec cela. Je vais faire un montage vidéo avec les photos et je vais mettre la musique, les transitions et tout. Donc, j'aime bien faire ça. Mais j'aime aussi être DJ à mes heures. Mm-hmm. Donc, j'aime bien la musique. J'écoute tout le temps de la musique. Et j'aime bien faire des soirées entre amis. Mais il vient à l'occasion de... je fais quelques mariages par année aussi. Donc, je suis quand même équipé pour ça. Donc, j'aime bien ça, ces petites passions-là.
Il n'y a pas une passion que les gens ne connaissent moins, parce qu'il y en a une que tu ne nous as pas nommée aussi.
Oui, c'est vrai. voici, Camille, dans un de mes tiroirs à la maison, j'ai une collection de jeux de cartes. Tu sais, les paquets pour jouer aux cartes, là. Donc, j'ai un tiroir plein de jeux de cartes. Mm. C'est pas seulement que les cartes avec les numéros et puis les cœurs, carreaux, valets et tout ça, là, dames, rois, mais c'est que les cartes sont toutes différentes d'un côté de l'autre. Donc, il y en a qui sont spéciales. Disons que tu as été dans une région, disons dans les Rocheuses.
Ah oui.
Puis ce paquet de cartes-là va avoir tout plein de photos de Rocheuses sur chacune des 52 cartes.
Wow.
Donc, c'est quand même spécial de voir. Malheureusement, il y en a un petit peu de moins en moins vendus de ces cartes-là, parce que les gens, soit qu'ils ne jouent plus aussi souvent avec
Dommage.
Un paquet, ou tout le monde est sur leur téléphone.
Oui.
Donc, voilà, j'ai un tiroir plein de ça.
Est-ce que tu les utilises non, c'est vraiment une collection précieuse?
J'utilise toujours les mêmes paquets que je veux jouer avec, okay. mais ceux que je collectionne, que je veux pas qu'ils s'abîment, je les garde de côté pour pas qu'ils s'abîment, justement.
Puis, tu nous parles un peu des Rocheuses. Je trouve que ça nous donne aussi un indice sur ta passion et ton amour pour le voyage. Parce qu'avant de travailler... Ah, voilà, là, on touche un point. Avant de travailler pour l'Association des amputés de guerre, qu'est-ce que tu faisais?
Justement, j'étais agent de voyage. Mm. J'ai étudié pour être agent de voyage. Et j'ai travaillé dans l'industrie du tourisme pendant 5-6 ans de temps. J'adorais, c'était vraiment très bien. On travaille, les agents voyages travaillent fort et c'est un travail qui demande beaucoup et malheureusement peut-être pas aussi bien payé qu'on pourrait l'imaginer. Mm. Et on est toujours les agents voyages sont toujours en train de se battre, de façon de parler, mm. entre guillemets, contre Internet. Donc, c'est sûr et certain oui. que ça rend la tâche un petit peu plus difficile. Mais j'ai fait plusieurs croisières, j'ai été plusieurs fois en Floride. Mon dernier voyage avant la pandémie, j'ai été en Floride, aller à Disney World en Floride avec ma voiture.
Wow.
Donc, ça a été toute une aventure, ça. Fait que l'amour du voyage, là, j'aime beaucoup.
Ben écoute, tu nous laisses sur des belles images, Kevin. Je veux vraiment te remercier pour, en fait, de nous avoir parlé de toi, de nous avoir partagé ton univers et tous tes plaisirs. Et ben j'espère à bientôt.
Oui, ben merci Camille de l'invitation et j'apprécie tout ce que tu fais et continue comme ça. J'aime bien tes émissions de radio.
Merci Kevin, tu es adorable. Et merci à vous, chers auditeurs, de toujours être avec nous. Je remercie aussi mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Claire Guérin, ma recherchiste, Jean-Sébastien La Liberté à l'habillage sonore. Et je vous invite toujours à reconsulter le site canalm.vusezvoix.com pour réécouter les émissions. Et je vous dis à la semaine prochaine!